franceinter.fr.
France Inter, il est 13h. Le journal Bruno Duvic.
Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, une conférence climat pour rien, une de plus, peut-on dire cela, alors que s'achève la conférence de Bonn, la première après l'annonce du retrait des États-Unis. Bilan dans un instant. Il était court sur pattes et d'une violence inouïe. Le chef mafieux Totò Riina vient de mourir à 87 ans. Au palmarès, selon la justice italienne, 150 homicides directs ou commandités, dont deux particulièrement emblématiques, les juges antimafia Falcone et Borsellino. Sexisme, main baladeuse et harcèlement au quotidien, un chapitre de plus aujourd'hui, l'hôpital. Étude d'un syndicat d'internes en médecine. Et ce qui frappe une fois de plus au-delà des chiffres accablants, c'est le silence à la fois des femmes victimes, comme si tout cela était normal et intégré, et le silence de l'institution. Dans ce journal encore, des trains en retard. Le rapport de l'autorité de régulation du transport ferroviaire pointe le manque de ponctualité. Pourquoi la France s'implique-t-elle autant dans la crise entre Arabie et Liban? Le procès d'Abdelhakim Dekar, l'homme qui avait fait irruption armée dans les locaux de BFM TV et Libération. Et puis un sommet européen contre le populisme. La météo. Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
La tendance aujourd'hui, des nuages au nord.
Eh oui, un temps très nuageux et humide entre le bassin parisien, le centre, le nord-est. On a quand même des éclaircies qui reviennent au nord de la Seine, sur le nord-ouest également. Et puis dans le sud, c'est du soleil. On attend 3 à 9 degrés dans l'est, 10 à 15 en allant vers l'océan et jusqu'à 20 degrés pour la Méditerranée.
A tout à l'heure Élodie. Pour plus de précisions dans ce journal, nous vous raconterons encore la mobilisation pour un SDF à Villejuif. Vous êtes les bienvenus dans le 13h de France Inter. Bonjour, il y a le feu, les pompiers passeront l'année prochaine. Vous vous souvenez de l'expression de Jacques Chirac au sujet du changement climatique. La maison brûle, c'était il y a 15 ans. Il y a 2 ans, de grandes décisions ont été prises à Paris et depuis, les rapports s'empilent pour dire que la situation s'aggrave. D'autant que les États-Unis de Donald Trump veulent se retirer de l'accord de Paris sur le climat. Alors, la conférence climat de Bonn en cette fin d'année s'achève aujourd'hui. On se disait qu'évidemment, vu l'urgence de la situation, de grandes décision allait être prise, qu'on allait beaucoup avancer dans la lutte contre le changement climatique. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
En direct de Bonn, en fait non, pas de décision.
Écoutez, oui, ce n'est pas une COP des annonces. On nous avait prévenu que ce serait un sommet climat très technique. Il y a eu quelques avancées, mais c'est vrai que le contraste est toujours frappant entre la lenteur des discussions au sein des Nations Unies et l'urgence climatique. Les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse cette année. En 2018, les pays signataires sont censés dire comment ils vont accélérer leurs efforts pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre chez eux. Or ici, eh bien, ils n'ont donné aucune nouvelle piste. Au contraire, à la tribune, la chancelière allemande a reconnu que l'Allemagne n'atteindrait pas ses objectifs de CO2 pour 2020. Angela Merkel a expliqué avec réalisme la difficulté de sortir du charbon, ne serait-ce que d'un point de vue social. On retiendra aussi de cette COP que les Américains n'ont pas bloqué les négociations. Ils ont défendu les énergies vertes, mais aussi les énergies fossiles qu'ils veulent rendre plus propres. Pas évident. On le voit en ce moment avec la fuite de pétrole sur l'oléoduc de Keystone dans le Dakota du Sud.
Sandy Dauphin en direct de Bonn. En France, le plan Épervier déclenché ce matin dans le nord de la Seine-et-Marne. Une voiture a foncé sur des gendarmes vers 7h30 près de Coulommiers. Aucun militaire blessé. Ils ont tout de même dû ouvrir le feu. La voiture est une BMW grise. Il mesurait 1m57, surnom ou court ou le court parce qu'il était petit, mais aussi le fauve pour sa violence. Violence inouïe. Le chef mafieux Totò Riina vient de mourir en prison. Il avait 150 morts sur la conscience, à en croire les accusations de la justice italienne. Riina, c'est en particulier l'homme qui est derrière ceci.
Penchées au-dessus du cercueil de leur mari, trois femmes épuisées par la douleur. Les femmes des trois gardes du corps du juge Falcone, tuées lors de l'attentat. Une grande partie de la classe politique italienne est là, dans la cathédrale de Palerme, pour un dernier hommage au juge Giovanni Falcone.
Voilà, c'était en 1992, les assassinats des juges antimafia Falcone 92, Paolo Borsellino en 93. Bonjour Mathilde Imberti.
Bonjour à tous.
Correspondante de France Inter à Rome, Totò Riina, cet homme qui était né il y a 87 ans à Corleone, Sicile. Est-ce qu'il avait encore de l'influence les dernières années de sa vie?
Mais écoutez, elle ne pouvait pas diriger le quotidien des affaires mafieuses, c'est certain. Rina était au 41 bis, un régime carcéral extrêmement contraignant en Italie, mais il pouvait rester influent, hein, d'après les spécialistes de Cosa Nostra. Les autorités ont refusé de le laisser sortir de prison pour se soigner l'été dernier. Elle continuait aussi de mener des écoutes. Ainsi, durant un entretien avec l'un de ses fils, il y a 7 ans, Toto Rina défiait l'État. Ils ont cherché à m'anéantir, mais moi, on ne me détruit pas. Et de fait, depuis son arrestation en 93, personne n'a reconstruit l'exécutif de Cosa Nostra, sans lui, la fameuse coupole.
Alors Mathilde, la question qui est ouverte et qui est complexe à présent, c'est celle de la succession de Toto Rina.
Oui, car sa mort ne règle rien. La présidente de la commission anti-mafia, Rosy Bindi, a réagi ce matin. Toto Rina est mort, a-t-elle dit, mais la mafia, non. Une mafia qui n'est naturellement plus du tout celle du film Le Parrain, comme nous le raconte. Lirio Abate est journaliste sicilien, responsable du service enquête à l'hebdomadaire L'Espresso.
La mafia militaire, la mafia de Corleone, celle des massacres des années 80-90 a été défaite. Mais il reste un autre type de mafia, une mafia qui fait de la politique et des affaires. Aujourd'hui, un chef de Cosa Nostra vient de mourir. Le risque, c'est d'en voir en émerger un nouveau en Sicile. D'ailleurs, dans des écoutes récentes menées à Palerme, des mafieux disaient « Tant que Provenzano et Rina sont en vie, on ne pourra pas prendre le pouvoir ». Aujourd'hui, tous les deux sont morts. Le scénario reste ouvert.
Morti questi due, adesso vedremo cosa accadrà.
En attendant, Toto Rina va être enterrée, mais sans cérémonie publique. Elle devrait être interdite, comme cela a été le cas pour d'autres boss avant lui.
Merci Mathilde Imberti, en direct de Rome pour France Inter. Toto Rina mort, pas la mafia, on pourrait ajouter. En France, non plus. Ce matin, à la direction de la police judiciaire, était dévoilé le rapport annuel sur le crime organisé en France. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
On retient quoi de ce rapport, Emmanuel?
Bah écoutez, en France, déjà, on parle judiciairement d'associations de malfaiteurs, oui. Pas de mafia, de crime organisé. Effectivement, la direction centrale de la police judiciaire et sa cellule d'analyse, le CIRASCO, ont mis en évidence les nouveaux phénomènes mafieux ayant émergé l'année dernière en matière de stup, dans la cybercriminalité, avec un phénomène baptisé le jackpotting, ou comment faire sauter un distributeur automatique sans avoir à le fracasser, distributeur automatique de billets. Et puis, plus classique, avec le démantèlement en début de semaine d'un nouveau gang de voleurs dans la Loi géorgien, 3 chefs des vores arrêtés en région parisienne, 5 malfaiteurs au total, une enquête française, italienne et espagnole. Frédéric Douady est le chef de l'Office central de lutte contre la criminalité organisée.
On a travaillé donc sur les parrains pour identifier toute l'organisation criminelle qu'ils avaient mise en place en région parisienne, mais pas qu'en région parisienne, étant donné qu'ils avaient ce même type d'activité en Italie, au Portugal, en Espagne. On est en tout cas sur des préjudices qui dépassent les millions d'euros, le million d'euros. On est par contre là sur une organisation, je dirais, criminelle russophone classique, avec des têtes de réseau, avec des malfaiteurs qui, eux, ont une, je dirais, une spécialisation dans le cambriolage, par exemple, de lieux d'habitation, ou dans le cambriolage de manèges à bijoux dans des supermarchés, ou de vol à la tire, là aussi, sur des magasins, mais également, certains étaient spécialisés dans le trafic de cigarettes ou dans d'autres activités criminelles.
Et il faut savoir, Bruno, que ces voleurs dans la loi, ces Vori Zakon, n'ont absolument rien avoué depuis le début de leur garde à vue. Là aussi, c'est classique.
Merci, Emmanuel Leclerc. En Irak, la peau de chagrin, peau de mort de l'organisation État islamique se réduit encore plus. Ils ont perdu aujourd'hui la localité de Rawa, présentée souvent comme la toute dernière localité tenue par les djihadistes en Irak. Ce sera l'une des images importantes de ce week-end. Le premier ministre libanais, Saad Hariri, reçu en France en exilé provisoire. Rencontre prévue demain avec Emmanuel Macron. Ce sera à midi à l'Élysée, dit à l'instant la présidence de la République. Rappel des épisodes précédents. 4 novembre, Saad Hariri présente sa démission du gouvernement libanais depuis Riyad, en Arabie. 13 jours plus tard, il est toujours en Arabie, ce qui est étrange et ce qui accrédite l'idée d'une démission sous l'influence de Riyad. L'Arabie trouve qu'au Liban, l'Iran, son adversaire régional, a pris trop d'influence. C'est là que la France intervient. Un déplacement de Jean-Yves Le Drian à Riyad cette semaine. La proposition d'accueillir Saad Hariri à Paris pour faire baisser la température et pour faire bonne mesure auprès de l'Arabie Saoudite. Une phrase dénonçant la tentation hégémonique de l'Iran dans la région. Dernier développement ce matin de cette crise diplomatique qui est importante, Christian Chesneau, c'est la colère de l'Iran qui accuse la France de partialité.
Oui, la médiation française a sans doute un peu énervé l'Iran, Paris ayant permis de sauver la face de leurs ennemis, les Saoudiens, qui qui était embourbée dans ce casse-tête diplomatique. Mais ce que reprochent surtout les Iraniens à la France, c'est le fait que Paris, sans doute pour apaiser les Américains et les Saoudiens, cherche à ouvrir de nouveaux dossiers qui embarrassent Téhéran, qu'il s'agisse de son programme balistique ou de son influence régionale, autant de questions sensibles qui ne sont pas contenues dans l'accord nucléaire et que l'Iran ne veut en aucun cas lier entre elles. Enfin, Téhéran redoute que la France et plus généralement les Européens cèdent aux menaces des sanctions américaines et mettent le frein sur les relations économiques avec l'Iran.
Christian Chéneau, pourquoi la France s'implique-t-elle à ce point dans cette crise entre Liban et Arabie ?
En fait, Bruno, Paris a un triple intérêt. D'abord, le Liban est la porte d'entrée traditionnelle de la France au Moyen-Orient. C'est une relation historique, j'allais dire, sentimentale. Et puis, il y a la famille Hariri, très liée à la vie politique française. On connaît les liens qui unissent Jacques Chirac au clan du Premier ministre libanais. Enfin, il y a aussi un lien très fort avec l'Arabie saoudite, promu sous François Hollande au rang de partenaire stratégique de la France. Pour Paris, les enjeux commerciaux et militaires pèsent très lourd dans la balance. Voilà pourquoi Emmanuel Macron a mouillé sa chemise pour jouer les médiateurs entre Saoudiens et Libanais.
Christian Chéneau du service étranger de France Inter.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Ils partirent de Paris en train à 23h30 hier soir. Ils arrivèrent à Orléans ce matin. À 5h30, c'est la mésaventure la nuit dernière de 180 passagers d'un intercité tombés en panne au milieu de chemin. Ils ont fini en bus. Histoire exceptionnelle, évidemment. Les trains n'ont pas toujours 6 heures de retard, mais les petits ou plus grands retards sont tout de même assez fréquents. Maxime Devs, vous nous avez rejoint. L'autorité de régulation des activités ferroviaires vient de rendre son rapport premier bilan du transport ferroviaire de voyageurs. Et Maxime, parmi les choses à améliorer, pointées par ce gendarme des voies ferrées, eh bien, il y a la ponctualité.
Oui, c'est simple. L'an dernier, plus d'un train sur 10 est arrivé avec au moins 6 minutes de retard en gare. Des retards qui souvent dépassent la demi-heure, notamment aux heures de pointe. Si vous avez, par exemple, un train à prendre cet après-midi, sachez que vous avez 2 à 3 fois plus de chances de ne pas arriver dans les temps à destination, selon l'ARAFER. En 2015, ce sont ainsi 11 millions de minutes de retard que l'ensemble des trains ont accumulé à rapporter aux milliers de trajets assurés chaque année. Ça donne un retard de 2 à 3 minutes en moyenne par train. Des retards qui, la moitié du temps, pourraient être maîtrisés, estime le gendarme du ferroviaire, pour qui la marge de la SNCF est aujourd'hui importante. L'ARAFER qui voit dans ce manque de ponctualité l'une des raisons, peut-être pas la seule, d'un certain désamour des Français. Pour le train, le ferroviaire en effet perdu 1% de voyageurs l'an dernier, là où ses concurrents, l'avion, le covoiturage et l'autocar, ont tous progressé.
Et un chapitre de plus dans le livre « Harcèlement et sexisme au quotidien ». Aujourd'hui, l'hôpital, l'intersyndicale nationale des internes, publie une étude sur le sujet. 3000 jeunes médecins ont répondu à des questions. Enseignement, la main baladeuse, ça c'est du quotidien. Le harcèlement, c'est du régulier. Le silence et l'impression que tout cela est normal, c'est une habitude bien ancrée. L'invité de ce journal est Alizée Porto, vice-présidente chargée des droits des femmes au sein de ce syndicat d'internes en médecine. Bonjour.
Bonjour.
Alors cette étude, vous l'avez lancée avant toutes les affaires récentes, affaires Weinstein oui. et compagnie, parce que vous aviez l'impression qu'il fallait mener cette étude, vous sentiez une nécessité.
Exactement, on a réfléchi sur tout ce qui est mal-être à l'hôpital et finalement il y avait une discrimination dont on ne parlait pas et pourtant que l'on voit à l'hôpital, c'est le sexisme présent dans ce milieu-là.
Alors, quels sont les principaux enseignements de cette étude ?
D'abord, le premier résultat, c'est sur le taux de harcèlement sexuel. 8,6% des répondants ont été victimes de harcèlement sexuel. Et le résultat, le pendant de ce résultat, c'est le fait que 2% de ces personnes victimes de harcèlement ne se considèrent pas vraiment comme victimes.
C'est normal, au fond.
Exactement. Et même le harcèlement, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont vécu des gestes à connotation sexiste, des contacts physiques, des demandes insistantes de relations sexuelles, de manière répétée, qu'ils décrivent, mais qui disent « non, je ne suis pas harcelée ».
Essentiellement des femmes, j'imagine ?
Oui, c'est essentiellement des femmes. Il y a quelques hommes qui ont témoigné sur le harcèlement, mais c'est essentiellement des femmes. Oui.
Comment expliquez-vous qu'elles ne soient elles-mêmes pas plus choquées que cela ?
Bon, déjà, ce résultat, moi, m'a choquée, ouais, déjà. Ouais. Je pense que c'est qu'on déjà, on ne parle pas de ce sexisme-là. Et finalement, le sexisme quotidien, le sexisme, les remarques, ça crée un univers où on tolère
et où
le
on
sexisme.
Glisse vers le harcèlement sans s'en rendre
exactement.
Compte.
Exactement. C'est-à-dire qu'on banalise le sexisme quotidien, on banalise la blague parce que ça fait partie de l'humour, ça fait partie de la vie à l'hôpital. On banalise finalement la remarque et donc on va banaliser le geste répété et on ne s'aperçoit même plus qu'on est dans du harcèlement.
Il y a une notion d'hiérarchie à chaque fois, dans les gestes déplacés, dans les remarques déplacées, c'est-à-dire que ce sont des supérieurs par rapport à des inférieurs, entre guillemets.
Oui, on a donc étudié les auteurs de ce harcèlement, oui, et également de ce sexisme. Et dans la majorité des cas, c'est des supérieurs hiérarchiques. Et 10% des auteurs s'agissant sont les chefs de service. Donc il y a une relation directe de hiérarchie.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, quelques histoires que raconte ce rapport ?
Un des commentaires, c'était une interne femme qui racontait que tous les matins, un médecin du service lui disait bonjour en lui mettant la main sur la cuisse et en disant « bonjour ma petite ».
Ouais, tous les matins,
tous les matins. Voilà, donc c'est un des commentaires que l'on a eu.
Vous-même, vous êtes en chirurgie cardiaque, le top du top à plein d'égards. Vous-même, vous vous sentez concernée, vous êtes victime soit de harcèlement, soit de remarques, soit de dépréciation.
Moi, j'ai fait donc un internat de chirurgie, et notre étude en fait montre que c'est au bloc opératoire où le sexisme quotidien est présent. Et de manière plus fréquente que dans les autres endroits. Donc moi, j'ai eu, oui, durant mes études, des remarques et des ce qu'on me disait comme réflexion ou
par
comme
exemple,
blague. Ben en fait, la remarque la plus classique, c'est qu'une femme ne peut pas faire chirurgie.
Ah
oui. C'est pas un métier de femme. Et qu'en fait, il faut que je choisisse autre chose.
Qu'est-ce qu'on fait de ces résultats, Alizée Porto, maintenant ?
La première chose, c'est que notre étude montre clairement que on ne parle pas de ce sexisme, que c'est encore un tabou, que c'est banalisé. Et donc, on ne doit pas accepter aucune blague, aucune remarque sexiste pour ne pas accepter de harcèlement. Donc, la première chose à faire, c'est finalement briser ce tabou, en parler encore, refaire des études, refaire des enquêtes. Il va falloir sensibiliser au sein de l'hôpital, au sein des facultés sur le sexisme. Considérer que c'est une discrimination que l'on ne doit pas accepter. Ça, c'est la première des choses. Également, accompagner les personnes qui ont été victimes de harcèlement sexuel à justement porter plainte, que ce soit visible. Et puis, bien entendu, pour l'accès à... On sait qu'il y a, bien entendu, un plafond de verre, c'est-à-dire aider les femmes finalement à accéder...
À progresser dans leur carrière.
Ouais. Exactement.
Merci beaucoup. La chirurgienne cardiaque Alizée Porto, vice-présidente de l'intersyndicale nationale des internes, entretien réalisé ce matin. Le sexisme au quotidien, ce sera le thème du Téléphone Sonne ce soir sur France Inter à 19h20. Vos questions dès 18h au 01 45 24 7000 ou bien sur franceinter.fr. L'homme à la voix qui électrise les foules est en détresse respiratoire. Johnny Hallyday, qui souffre d'un cancer du poumon, est hospitalisé à nouveau à Paris. Un proche du chanteur a assure à l'agence France Presse que le retour à la maison est prévu sous peu. La situation, dit ce proche, s'est stabilisée. C'est l'une des traques que nous avons suivies en direct sur les télévisions d'information en continu ces dernières années. La cavale en région parisienne d'Abdelhakim Dekar, elle avait duré 5 jours avant son arrestation. Dekar, armé, avait d'abord fait irruption au siège de BFM TV, puis est menacé un des cadres de la maison. Puis il était allé au siège du journal Libération, où il avait grièvement blessé un assistant photographe. Il avait encore tiré sur l'immeuble de la Société Générale dans le quartier de la Défense. 4 ans plus tard, c'est l'heure du procès. Bonjour Corinne Audouin.
Bonjour Bruno.
Vous êtes en direct du Palais de Justice de Paris. Cette question au fond, au cœur du procès, quelles étaient les motivations de Dekar ?
Oui, et la dernière photo que l'on connaissait de lui, c'est une image de vidéosurveillance prise dans le métro après les tirs. À Libération, un homme en parka rouge, bonnet enfoncé sur la tête, le regard traqué. 4 ans plus tard dans le box, Abdelhakim Dekar porte les cheveux longs, gris et frisés, vêtu d'un gilet à grosses mailles. Ses fines lunettes métalliques lui donnent un faux air de professeur tournesol. Au micro, interrogé sur sa profession, il dit travailler dans l'ingénierie. Une des nombreuses zones floues de cet homme, né il y a 52 ans, en Lorraine, personne ne sait vraiment ce qu'il a fait depuis 1998. C'était après avoir purgé 4 ans de prison dans l'affaire Ray Maupin. Il avait alors fourni l'arme qui avait servi à leur équipée sanglante. Et 15 ans plus tard donc, Abdelhakim Dekar surgit armé dans les locaux de BFM TV avant d'ouvrir le feu 3 jours plus tard à Libération et devant la Société Générale. Voulait-il tuer ? Il a affirmé pendant l'instruction que le tir sur le jeune assistant photographe grièvement blessé à Libé était un accident, qu'il voulait surtout mourir fuir, se faire tuer par la police pour servir la cause anticapitaliste, pardon, en s'en prenant au symbole du pouvoir. Un discours flou, confus, au relent mégalomaniaque qu'il appartiendra à la cour d'assises de tenter de comprendre.
Corinne Audouin en direct du Palais de Justice de Paris. Il y a un an, Emmanuel Macron présentait sa candidature à la présidentielle pour accomplir, promettait-il, une révolution. L'un des aspects de cette révolution promise, c'était de rendre la parole aux Français sur le terrain et en particulier aux militants de son mouvement En Marche, en finir avec une approche uniquement verticale. Demain se tient le Conseil national de la République En Marche à Lyon. Christophe Castaner sera élu à la tête du mouvement. Alors ce mouvement, est-ce qu'il joue son rôle aujourd'hui? La députée ancienne écolo, aujourd'hui En Marche, Barbara Pompili, était ce matin l'invitée de nos confrères de France Info. Voici sa réponse.
C'est un mouvement qui a été construit par Emmanuel Macron pour l'installer à la présidence de la République. Aujourd'hui, il faut structurer ce mouvement qui fonctionne pas, enfin, faut bien le dire, aujourd'hui, qui fonctionne mal. Mais c'est normal, c'est normal. Il a été construit pour faire une campagne présidentielle et derrière une campagne législative. Ça a été tellement de travail, ça a été tellement énorme que pendant ce temps-là, il n'a pas eu le temps de se structurer, ce qui me paraît parfaitement logique.
Il est en sommeil depuis 6 mois.
Il vivote. Et donc, il a besoin, encore une fois, de s'organiser, de se structurer. Et c'est à ça que ça va servir. Moi, ce qui m'intéresse, le parti, pour moi, c'est un outil. C'est un outil pour faire porter des idées politiques, pour essayer de faire avancer les choses, pour porter des gens à des élections. Aujourd'hui, cet outil, il faut vraiment, vraiment, vraiment l'organiser. Et pour ça, que Emmanuel Macron disent, voilà, moi j'ai besoin d'un homme de confiance et j'ai besoin d'un homme d'expérience, pourquoi pas? Il s'avère qu'il n'y a pas eu d'autres candidats. Hein.
Et le nouveau monde version En Marche, est-ce que c'est le cumul des mandats? Autrement dit, Christophe Castaner doit-il à la fois être à la tête du parti et rester porte-parole du gouvernement? Barbara Pompili ironise, s'il se sent capable de faire des journées de 48 heures, tant mieux. Quant à Richard Ferrand, le président du groupe La République En Marche, sur ce point précis, il estime que quelle que soit la solution, ce sera la bonne et je la soutiendrai. Que répondre aux populistes eurosceptiques et europhobes de plus en plus puissant en Europe? 28 chefs d'État et de gouvernement essaient de relever le défi aujourd'hui lors du sommet de Göteborg en Suède. Deux objectifs, montrer que l'Europe s'intéresse aussi aux questions sociales et aux jeunes. Les questions sociales, on y reviendra en détail après le discours d'Emmanuel Macron attendu cet après-midi. Ce sera dans les journaux de 18 et 19 heures. Pour l'instant, intéressons-nous à la partie jeune. Bonjour Célia Kiré.
Bonjour Bruno.
Alors il y a toute une série de très belles intentions, elles vont être inscrites au débat. D'abord Erasmus, Célia Kiré, les 28 veulent développer encore ce programme qui est un des grands succès de la construction européenne.
Oui, car ce programme Erasmus fête ses 30 ans cette année. C'est effectivement un succès et ce n'est pas un hasard si les 28 veulent le renforcer ici à Göteborg. Le but est vraiment de montrer que l'Europe est positive pour les jeunes. Le président de la Commission européenne, par exemple, a l'ambition de doubler le nombre d'étudiants qui en bénéficient. Ce serait un engagement de 30 milliards d'euros entre 2021 et 2027. L'Europe voit loin et cette idée séduit également Emmanuel Macron. Le président souhaite que la moitié d'une classe d'âge, c'est-à-dire un jeune sur deux, puisse passer au moins 6 mois dans un autre pays européen et cela concernerait, Bruno, tout autant les apprentis et les étudiants.
Deuxième idée, Célia Kiré, c'est de créer des universités européennes.
Oui, les 28 veulent aller plus loin qu'Erasmus. Certains États, comme la France et l'Allemagne, souhaitent en effet créer des universités européennes intégrées qui permettraient aux étudiants de changer de pays d'une année sur l'autre sans changer d'université. Un projet sur ce modèle existe d'ailleurs, enfin il est en cours entre l'université d'Alsace, la Suisse, l'Allemagne et le Luxembourg. Emmanuel Macron rêve d'une vingtaine d'universités de ce type à l'horizon 2024.
Et puis le troisième point, c'est une carte d'étudiant électronique?
Oui, c'est l'idée de la Commission européenne. Cette carte électronique de l'Union serait le précieux sésame qui permettrait aux étudiants de se déplacer d'une université à l'autre en gardant avec eux leur dossier, tous les résultats des années passées. L'idée, encore une fois, est d'encourager la mobilité, mais une mobilité utile. La Commission européenne souhaite orienter les jeunes vers des disciplines dites d'avenir, comme la lutte contre le changement climatique, la robotique ou encore l'intelligence artificielle. C'est une Europe très pragmatique pour les jeunes qui se dessinent en ce moment à Göteborg.
Et donc le discours d'Emmanuel Macron cet après-midi, merci Célia Kiré. Allez, après avoir parlé dans le cadre de ce journal de mafieux, de harcèlement sexuel et de trains en retard, La belle histoire du jour, la mobilisation pour un SDF à Villejuif, dans le Val-de-Marne, en banlieue parisienne. Nous sommes fin mai d'abord. Dominique a 55 ans et se retrouve à la rue. Depuis cette époque, il dormait tout seul dans sa voiture, tout en continuant de travailler, d'ailleurs dans la journée, à la RATP. Arrêt de travail ces derniers temps après une chute. Le deuxième personnage de l'histoire s'appelle Djelloul. Il a 23 ans, il est collègue de la RATP et il veut aider son copain. Et il poste une vidéo le 1er novembre dernier sur Facebook pour expliquer la situation de son ami Dominique. 10 000 vues en quelques jours, élan de solidarité. Lundi, Dominique a pris les clés de son nouvel appartement devant Bénédicte Robin.
Bonjour.
Bonjour.
Dominique sort de sa voiture, celle qui lui a servi de maison ces 6 derniers mois, pour entrer dans son nouveau chez lui.
Bip, viens ici.
Bip Bip, c'est sa petite chienne blanche qui ne le quitte jamais.
Ici, c'est ma chambre, c'est génial, il fait bon, il fait... Voilà, j'ai des sanitaires, une salle de bain, j'ai une petite cuisine. Bip Bip qui fait son tour.
Elle s'approprie les lieux comme son maître, qui n'en revient toujours pas d'être ici.
Le lundi midi, quelqu'un est venu me chercher sur le parking où j'étais.
Et ce quelqu'un, c'est une personne de la ville à qui appartient cet appartement et qui le loue pour un prix modique à Dominique, le temps de lui trouver un logement pérenne.
Il m'a dit, tenez, voilà le trousseau de clé, vous êtes chez vous. Et ça, je peux vous dire, c'est énorme.
C'est un truc de ouf, voilà, c'est ça.
Et lui, c'est Djelloul, c'est lui qui a posté la vidéo sur Facebook pour alerter sur la situation de son ami.
Quand j'ai vu Dominique, je me suis dit, ça peut arriver à n'importe qui.
Et sa vidéo a créé cet élan de solidarité.
Franchement, au bout de quoi, 4-5 jours, j'ai eu 9000 vues. Les gens sont venus voir Dominique jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, une chaîne énorme.
Pour me donner qui un duvet, une couverture, une poêle, c'est inimaginable quoi.
Il se dit infiniment reconnaissant à tous ses bienfaiteurs et compte bien organiser une petite fête de remerciement.
Voilà pour ce reportage de Bénédicte Robin. Comment entretenir et réhabiliter les plus beaux bâtiments de notre patrimoine? Vous savez qu'une mission a été confiée sur ce thème à Stéphane Bern et que, évidemment, la ministre de la Culture travaille également sur le sujet. Elle annonce ce matin la création bientôt d'un loto du patrimoine, un tirage spécial du loto qui pourrait intervenir par exemple la veille des journées européennes du patrimoine. Allez, nous allons terminer ce journal en musique, car il y a toute une série de très belles sorties de disques ce vendredi. L'ancien chanteur des Smiths, Morrissey, Michel Legrand et Nathalie Dessay qui à nouveau travaillent ensemble. Et puis deux disques estampillés France Inter. D'abord celui de Charlotte Gainsbourg, Reste. Petit extrait.
Reste avec moi.
Charlotte Gainsbourg, le disque sort aujourd'hui. Il sort aujourd'hui également cet album. Vous n'avez pas pu y échapper. Il était partout dans la presse et notamment sur France Inter au micro de Léa Salamé ces derniers jours. Étienne Dao, l'album s'appelle Blitz. Voici les flocons de l'été. Voilà quelques petites idées de disques à écouter pour votre week-end. 13h27 sur France Inter, c'est l'heure de la météo.
La météo avec Switch Assure, comparateur d'assurance emprunteur 100% en ligne. Comparer, switcher, c'est gagné. Rendez-vous sur switchassure.fr.
Elodie Calac, devinez quoi, nuage au nord, soleil au sud.
On commence par le soleil, on le trouve de Poitou-Charentes et du sud-ouest vers la Méditerranée, les Alpes, le Jura. Mistral et Tramontane soufflent jusqu'à 60-70 km à l'heure. On trouve de belles éclaircies au nord de la Seine, des éclaircies aussi sur le nord-ouest. Ça reste plus maussade entre la région parisienne, le centre, le nord-est. On n'est pas à l'abri de quelques gouttes de temps en temps. Côté thermomètre, ça reste trop bas dans l'est, 3 à 9 degrés. C'est plus clément en allant vers l'océan, 10 à 15 degrés. Et puis on a toujours un peu plus en Méditerranée, 15 à 20. Le week-end s'annonce plutôt calme. De la grisaille demain, elle sera tenace dans l'est. Ailleurs, le soleil s'imposera. Une dégradation légèrement pluvieuse s'invitera par le nord dans l'après-midi et on la retrouvera dimanche entre le massif central et l'est du pays.